Vous écoutez IDFM, il est 18h.
Bonsoir, vous êtes bien sûr IDFM Radio, soyez les bienvenus dans notre émission Entre Chiens et Loups, l'émission culture d'IDFM avec Claude Lévy. Ce soir, j'ai le grand plaisir de vous emmener au théâtre. Je vais vous faire rencontrer un comédien et sa metteur en scène, plus l'invité qu'ils se sont choisis, qui n'est autre que Jésus. Un être qui n'a pas la langue dans sa poche, qui n'est pas l'illuminé des cartes données aux enfants pour leur communion, qui n'est pas non plus celui des évangiles, mais un homme qui se pose des questions sur la vie, l'amour, la mort et la soif. Dans son roman « Soif », paru il y a à peu près 2 ans, Amélie Nothon nous fait vivre de l'intérieur les dernières 24 heures de Jésus. On le voit comme dans un film et on l'entend, tour à tour, faiseur de miracles, philosophe, amoureux, fils assez critique d'un père un peu abstrait et superstar de nombreux croyants pour les siècles des siècles. Ce Jésus est là devant moi, je l'ai rencontré. Bonsoir Julien Blétrac.
Bonsoir Claude.
À vrai dire, il n'est pas venu tout seul, Jésus n'est jamais tout seul. Il est accompagné ce soir par son excellente metteur en scène, Catherine Dac. Bonsoir Catherine Dac.
Bonsoir.
Voilà, on retrouve la légèreté et l'humour d'Amélie Nothon dans ce roman qui a plus que ça, hein, plus que de l'humour, il y a aussi de la profondeur, on va y venir, et puis dans la façon dont vous le mettez en scène ici au théâtre. D'ailleurs, merci de nous recevoir ici, dans ce haut lieu de la création théâtrale, au Théâtre du Rond-Point, près des Champs-Élysées évidemment. Lequel de vous deux, entre Catherine et Julien, a eu l'idée ou l'envie, après avoir lu le roman d'Amélie Nothon, de monter cette histoire au théâtre ? Julien, Catherine ? Catherine.
Eh bien, c'est moi. C'est moi qui ai eu cette idée, après avoir lu le roman d'Amélie. En fait, il se trouve que quand j'ai découvert Amélie Nothon dans L'hygiène de l'assassin, j'ai eu une vraie révélation. C'était un roman, c'était pas du tout pour adapter au théâtre, mais quand j'ai lu Soif, j'ai eu à nouveau cette révélation.
Ça tombe bien.
Voilà, cette révélation, tout d'un coup, je me suis dit, celle-là, je vais pouvoir la partager, j'avais envie de la mettre en scène, et on avait déjà des projets, enfin, on cherchait quelque chose avec Julien, et on s'est mis d'accord.
Et vous et Julien n'étaient pas contre le fait de se mettre dans la peau de Jésus ?
Évidemment que non. je trouve le... Parce que tout de suite, Catherine m'a exposé en fait ses premières idées, qui étaient de le rendre présent d'une manière simple et concrète. Donc, jean, t-shirt, pieds nus, sans forcément de cheveux longs ni d'attributs auxquels on pense en général quand on imagine Jésus. À partir de là, face à cette simplicité qu'elle me proposait, c'est pas quelque chose qui m'a paru inconcevable ni insurmontable. Tout au contraire, je me suis dit que ça rencontrait tout à fait ce qu'en a fait et ce qu'a imaginé Amélie Nothon, puisqu'elle lui fait dire des choses d'une grande intelligence et en même temps d'une grande simplicité.
On va voir avec Catherine qui a adapté ce texte comment justement elle a su transposer un roman et l'incarner dans un personnage pour le théâtre. Vous qui avez évidemment, on y reviendra aussi sur votre longue carrière de metteur en scène. L'adaptation du roman pour le théâtre, comment ça s'est passé ?
Alors, Quand j'ai lu Soif, j'y ai vu tout de suite un monologue. Donc, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose de possible. Après, évidemment, la lecture d'un roman, même s'il paraît pas très épais, il fait 150 pages, c'est une lecture longue, ça faisait à peu près 2h40. Et je me suis dit que, en fait, ce qu'elle exposait, il fallait resserrer autour de l'élément principal, c'est le corps. C'est-à-dire que tout passe par là pour Amélie, dans ce qu'elle raconte, dans son Christ. C'est les capteurs sont à l'intérieur du corps du Christ, et l'amour passe par un corps, la mort passe par le corps, la soif passe par le corps. Et donc, avec l'aide de Julien, on a condensé, en fait, on a enlevé des passages libres aux gens. Alors surtout de lire le roman en entier, qui est absolument magnifique. Mais pour la scène, il était nécessaire d'en faire quelque chose de plus construit, plus scénique.
Ouais. Il faut préciser que ce n'est pas un traité de théologie. Ce n'est pas un commentaire des évangiles. C'est quoi, au fond, Catherine, vous qui l'avez vraiment approfondi et aimé à ce point ?
Alors, je pense que c'est vraiment la vision d'Amélie Nothomb. C'est-à-dire que c'est une interprétation qui a valeur de sa propre interprétation. Moi, j'ai adoré les questionnements qu'elle avait. J'ai trouvé que le chemin qu'elle accomplissait au fil de son écriture me parlait beaucoup. Je trouve ça extrêmement contemporain. Et je trouve que, bon, c'est Jésus, mais enfin, tout homme peut se poser ce genre de questions, franchement. Et en plus, elle fait ça avec un humour absolument incroyable. Donc, il y a quelque chose de très simple, comme disait Julien tout à l'heure, dans ce roman. Et l'interprétation, même s'il y a des multitudes d'interprétations de ce Jésus, ce Christ, elle l'a donné, elle a questionné par rapport à une question qui était fondamentale pour elle, c'est comment un père peut désirer une fin aussi tragique pour son fils. Et la façon dont elle va résoudre cette énigme, en fait, je trouve que c'est superbe. Venez voir, je vais dire ce que c'est. Hein.
Voilà, on va voir au théâtre, et ça tombe bien, puisque si on est ensemble aujourd'hui, c'est que dans très peu de temps, à vrai dire, le vendredi 3 février, vous allez monter Julien Blétrac sur la scène du théâtre du Casino d'Anguin pour jouer Soif. Alors, ensuite, c'est pas fini. Il y a le 3 février au Casino d'Anguin, et je crois que beaucoup de nos auditeurs auront à cœur de venir écouter cette... c'est plus qu'une pièce, c'est voir quelqu'un, et pas n'importe qui, puisque c'est Jésus, que je vous rappelle. Et puis ensuite, vous allez tourner, vous allez jouer ici même au Théâtre du Rond-Point, où vous répétez encore... Hein, donc l'année du comédien Julien Blétrac commence très fort, non ?
J'espère. En tout cas intérieurement, oui. Mais oui, c'est un océan qui nous emporte et qui nous fait passer par beaucoup de choses différentes. Là, en plus, on est encore en création et on est au moment passionnant de la création où on additionne toutes les idées, toutes les envies de toutes les personnes qui font l'équipe, c'est-à-dire la lumière, des projections vidéo, l'adaptation dont a parlé Catherine, le son, donc une création sonore faite aussi exprès pour la pièce. Donc tout ça, on les additionne et on est en train de regarder ce que ça nous fait plus que ce que ça nous évoque. C'est-à-dire que, comme l'a dit Catherine tout à l'heure, elle parle du corps dans son roman. Jésus relie beaucoup de choses au corps et à la sensation. Et donc, on a voulu une pièce dans laquelle on ressente en premier lieu les choses.
Alors, on entend cette très belle voix de Julien Blétrac et... qui est extrêmement pénétrante. Je pense que les auditrices et les auditeurs doivent y être sensibles. Cette voix, vous la travaillez depuis pas mal d'années. Est-ce qu'on peut revenir un peu brièvement sur votre parcours de comédien ? Comment vous êtes... quel a été le choix de votre vie ? Est-ce que vous vous êtes dit à un moment, voilà, j'ai vu un tel sur scène, j'ai envie de faire ça ?
Oui, évidemment, c'est parce que là on est sur un objet théâtral. Je ne me sens pas forcément seul sur scène, mais c'est quand même un objet dans lequel on a un seul acteur sur scène. Donc si je devais essayer de balayer un peu mes souvenirs et ma mémoire parmi les seules en scène qui m'ont marqué, il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Grégory Gadebois dans Des fleurs pour Algernon. Voilà, c'est des moments, et notamment cette pièce-là, où en tant que spectateur, je me suis senti complètement avec lui. Et j'ai retrouvé le plaisir qu'on peut avoir en tant que lecteur lorsqu'on est tout seul face à son roman et qu'on a à la fois le champ libre pour imaginer et visualiser à notre façon et en même temps qu'on est pris par la main par l'histoire et par l'auteur. Donc voilà, c'est notamment un des exemples qui m'a donné envie de monter mon premier seul en scène, qui était Un obus dans le cœur de Wajdi Mouawad.
Formidable auteur, metteur en scène également et directeur du théâtre de la Colline, Wajdi Mouawad, qui jouait il y a encore très peu une remarquable pièce de sa main. C'est la racine carrée du verbe être, absolument formidable. Donc vous avez joué ça, Un obus dans le cœur, Julien Brel-Lestrac.
Et d'ailleurs, c'est vrai que, pareil, il y a un autre seul en scène que lui a incarné, OHD, qui s'appelle Seul, que j'ai trouvé aussi... enfin, voilà, c'est comme un coup de poing, quoi. Quelque chose qui vous emporte et vous... Et ça vous amène très loin.
C'est Seul en scène, c'est... Oui. Vous avez aussi monté une compagnie, Julien Blétrac.
Oui, en fait, on a monté une compagnie avec des amis à la sortie de l'école du Théâtre National de Chaillot, une compagnie qui s'est toujours positionnée en tant que collectif, où chacun pouvait à un moment prendre le lead pour mettre en scène les autres. Et à un moment dans cette histoire, j'ai eu envie de monter un spectacle, eh bien... plus personnel, dans lequel à la fois on pouvait retrouver certaines faiblesses peut-être, parce que fait seul comme un acte, comme une fulgurance, comme un besoin impérieux, et en même temps une force aussi parce que je trouve que la non-réflexion parfois et le geste peut amener quelque chose à un endroit intéressant.
Très, très riche. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette conversation tous les deux avec Catherine, mais je trouve que ce que dit Julien sur la profondeur, sur l'investissement que ça représente et sur la solitude aussi que ça implique, c'est quelque chose que vous avez eu l'occasion de discuter entre vous.
Je pense que là où Julien a raison, c'est que c'est pas quelque chose. Il n'y a pas de solitude. Il sera seul en scène. Par contre, c'est lui qui va porter le spectacle, c'est sûr. D'ailleurs, pour ça, il oublie qu'il y a quelque chose. On est pris par la main, il dit par l'auteur, par l'interprétation également, vous verrez. Et donc, cette solitude, elle va se manifester, bien sûr, dans la mesure où l'acteur est seul en scène. Mais à côté de ça, on chemine ensemble. Moi, je trouve que jusqu'à présent, dans nos répétitions, que ce soit avec notre équipe, tous les deux, il y a des échanges qui sont extrêmement importants. Et je n'ai pas l'impression que ça se construit de façon séparée. Je trouve que c'est assez collectif, ce qu'on fait. Et il y a une confiance qui s'établit, etc. Mais il est bien évident que le seul qui sera en scène, c'est Julien, ça c'est sûr.
Alors précisément, vous, Catherine Datt, qui le mettez en scène, qui le voyez tout le temps devant vous, sur le plateau, quels sont les enjeux pour vous de cette mise en scène, précisément pour ce roman qui vous a tellement marqué ?
Alors, les enjeux, c'est de faire sentir effectivement la vision d'Amélie Nothomb, qui est une vision corporelle. Donc, il y a vraiment quelque chose qui ne doit pas être intellectualisé, même si elle a une plume absolument magnifique. Elle a beaucoup d'humour, moi je veux de l'humour dedans, et je veux que les gens ressentent effectivement, rient également. Et tout d'un coup, il y a quand même des questions essentielles qu'elle va poser, c'est l'acceptation et le pardon, mais c'est toujours difficile d'en parler comme ça parce qu'on a l'impression que c'est très sérieux, alors qu'en fait, au fil du spectacle, il y a des choses qui sont extrêmement drôles et de réflexion d'Amélie Nothon, et en même temps, il y a quelque chose qui emporte. C'est pas du tout quelque chose ni de philosophique, ni une leçon de morale ou de quoi que ce soit. Il y a une remise en cause et il y a une façon aussi qu'elle va d'amener, qu'on entendra dans la bouche de Julien, où se trouve sa croyance. Et cette croyance, ben, on peut la voir pour des tas de choses. Il y a des gens qui vont avoir des croyances de l'univers, de ceci, de cela, etc. Chacun sa croyance, mais l'essence même de la croyance, elle est un peu commune pour tout le monde, c'est bien ressenti. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement libre et large, je trouve.
Oui, il me semble que dans le roman Soif, la fin évoque toutes les questions que l'on peut se poser avec la simplicité. Mais vous parliez de légèreté, d'humour, de grâce, je pourrais dire, et vous avez choisi une musique, des musiques pour le spectacle, mais vous avez aussi envie de nous la proposer, c'est de nous offrir une chanson, un morceau de Kanye West. Pourquoi ce choix? Dites-nous le titre.
Alors c'est God Is. Pourquoi ce choix? Je trouve que il y a quelque chose. Alors bon, j'aimerais mieux que les gens viennent voir le spectacle parce que là je dévoilerai quelque chose. Donc
on ne dit rien.
Ça va vraiment bien avec.
God Is.
Of your portions, I know I won't forget all he's done. He's the strength in this race that I run. Every time I look up, I see God's faithfulness, and it shows just how much he is miraculous. I can't keep it to myself, I can't sit here and be still. Everybody I will tell, till the whole world is healed. King of kings, Lord of lords, all the things he has in store. From the rich to the poor, all are welcome through the door. You won't ever be the same when you call on Jesus' name. Listen to the words I'm saying, Jesus saving, now I'm saying. And I know God is the force that picked me up. I know Christ is the fountain that filled my cup. I know God is alive, yeah. He is opening up my vision, giving me a revelation. This ain't about a dead religion. Jesus brought a revolution. All the captives are forgiven. Time to break down all the prisons. Every man, every woman, there is freedom from addiction. Jesus, you have my soul. Sunday service on a roll. All my idols, let them go. All the demons, let them know. This a mission, not a show. This is my eternal soul. This my kids, this the crib. This my wife, this my life. This my God-given right. Thank you, Jesus, won the fight. That's what God is. That's what God is. That's what God is.
êtes toujours dans l'émission Entre chiens et loups avec Claude Lévy, et ce soir je suis en compagnie de Julien Blétrac, de Catherine Date qui le met en scène et de Jésus qui les habite tous les deux, sous la plume remaniée par Catherine Date, sous la plume de Amélie Nothomb. Dans ce roman Soif. Catherine.
Je veux juste préciser, je n'ai pas remanié la plume d'Amélie Nothomb. Ce sont que ces mots. Le spectacle, il n'y a pas un mot écrit par moi. C'est quand on adapte, en fait, on fait des choix. C'est-à-dire que j'ai dû couper pour que le spectacle dure un certain temps. Et c'est pour ça que je conseille vivement aux gens de lire le bouquin, qui est absolument formidable. Mais il n'y a pas de mots de moi. C'est vraiment que les mots d'Amélie Nothomb, c'est la plume d'Amélie Nothomb, pas celle de Catherine Date. Catherine Date, c'est juste son regard par rapport à ce qu'elle avait envie de faire avec Julien, mais je n'ai écrit aucun mot. Aucun mot.
Mais Julien donne toute sa voix à ces mots d'Amélie Nothomb et c'est... Vous serez sans doute extrêmement touché, surpris et peut-être même amusé de temps en temps parce qu'il y a une ironie dans le regard à la fois d'Amélie Nothomb et de Julien Blétrac qui vous paraîtra très, très, très intelligente. Est-ce qu'il y avait des pièges à éviter dans le jeu ? Est-ce qu'il y avait... Enfin, jouer Jésus, c'est pas donné à tout le monde, quand même, Julien.
J'ai pas. C'est peut-être la force de Catherine et la force du texte, mais j'ai pas identifié de pièges ou d'écueils dans lesquels je pouvais tomber. Donc, je me suis laissé guider par le projet. Et quand vous disiez, Claude, quand vous parliez d'ironie. Et d'amusement, par exemple, on a en fait un Jésus qui va nous expliquer que les miracles, il les a obtenus un peu malgré lui, parce qu'il a réussi à s'oublier et qu'il a senti qu'il avait une puissance sous la peau qu'il appelle l'écorce et qui lui permet d'accomplir les miracles et de faire des choses qui le dépassent. Et si vous me le permettez, je vous propose de vous parler de ce moment-là.
Avec grand plaisir.
Ma mère me dit ils n'ont plus de vin. J'ai pas vu de problème. Je continuais à manger consciencieusement. Il m'a fallu du temps pour comprendre que pour cette famille, ce manque de vin constituait un déshonneur irréparable. Ils n'ont plus de vin, a répété ma mère. C'est alors que j'ai eu une intuition foudroyante. J'ai dit apportez-moi des jarres d'eau. Un grand silence s'est installé. Si j'avais réfléchi, c'était fichu. Ce qu'il fallait, c'était le contraire d'une réflexion. Je me suis anéanti. J'ai su que le pouvoir logeait juste sous la peau et qu'on y accédait en abolissant la pensée. J'ai donné la parole à ce que désormais j'appellerai l'écorce et je ne sais pas ce qui s'est passé. Pendant un temps insurmontable, j'ai cessé d'exister. Quand je suis revenu à moi, les convives s'extasiaient. « C'est le meilleur vin que l'on ait bu dans ce pays !» J'ai réprimé une colossale envie de rire. Ainsi, mon père avait jugé bon que je découvre cette puissance à l'occasion d'un manque de vin. Quel humour et comment le désapprouver ? Quoi de plus important que le vin ? La liesse a déboulé dans la noce. Les mariés ont enfin eu l'air heureux. L'esprit du vin n'a épargné personne. Voilà, j'avais envie de vous... Je me suis dit, quand vous...
Attendez, on précise qu'on est là aux noces de Cana, oui. Et que le faiseur de miracles, Jésus, que vient de nous décrire admirablement Julien Blétrac, c'est ça qu'on va trouver dans la pièce à la fois, cette innocence et cette beauté. Hein, très, très beau texte, remarquablement dit par Julien. Hein, mais alors, il est pour rien, ce pauvre garçon, c'est ça ?
Quelque part, c'est ça. C'est comme vous le dites, son innocence a parlé avant tout. Et il s'est laissé faire, et il s'est laissé aller. Et ensuite, elle est là, sa colère. C'est que après, accomplir un miracle, c'était plus offrir une grâce, c'était remplir son devoir. Donc à un moment, tout le monde lui est tombé dessus et c'est vraiment ce qu'on lit et ce qu'on apprend lorsqu'on le sait pas et qu'on se penche sur la vie de Jésus comme on a pu le faire avec Catherine de manière un peu plus précise. précise sur pas mal d'écrits différents. C'est-à-dire que ça a été un vrai problème. Il était tellement suivi, tellement écouté, tellement attendu au tournant que le moindre de ses déplacements et le moindre de ses gestes provoquait soit une foule d'éloges, soit une foule de critiques.
Alors, on va justement poser la question à Catherine Dat, puisque le roman, la pièce peut-être, commence par le procès et devant ce miracle merveilleux de l'eau transformée en vin aux noces de Cana. Mais les gens ne lui pardonnent pas, ce pauvre gars.
Non, alors, c'est le bouquin, le livre d'Amélie Nothomb commence comme ça, c'est-à-dire qu'il est... Jésus ne comprend pas comment tous ces miraculés viennent témoigner contre lui. Et donc, il va être condamné par Pilate. Et quand il sera dans sa cellule, il va se souvenir de ce premier miracle des noces de Cana. Et reconfirmer qu'il ne comprend pas du tout comment ses mariés se sont retournés contre lui. Donc, elle fait là un... Le procès démarre vraiment comme si tous ces miraculés étaient venus témoigner contre lui. C'est ce qu'il dit dès le départ. Donc la pièce commence là-dessus, effectivement.
Alors c'est terrible parce que la pureté abîmée par le verbe, par l'arrogance, par l'inconsistance là, des gens qu'il a lui-même sauvés, qui ont demandé à Jésus de les sauver.
Mais là où il est très humain, et c'est là-dessus on a mis l'accent surtout, c'est qu'il est en colère contre eux. Il ne trouve pas sympathique, il trouve qu'ils sont gonflés quand même d'avoir témoigné de cette façon après ce qu'ils avaient pu avoir. Il n'est pas content. Il n'est vraiment pas content, ça m'amuse beaucoup.
Et c'est très amusant parce qu'on ne rigole pas avec la religion, hein, on le sait bien aujourd'hui, mais ça me fait penser à une où il y a un prophète, ça peut être celui-ci comme un autre, qui dit « mais ça va être terrible de devoir aimer les cons hein. ». C'est un peu ça, non?
Et c'est cette dialectique qui est passionnante dans ce que propose Amélie Nothomb, c'est-à-dire l'aller-retour entre l'humanité de Jésus qui lui fait ressentir des sentiments contradictoires, des sentiments que lui-même aimerait ne pas ressentir, et puis cet élan et sa vocation, entre guillemets. Donc il est vraiment tiraillé entre son humanité et ce qu'il est et ce pourquoi il est là.
Une capacité grandiose de remise en question, qui est une force magnifique dans le roman.
Alors, justement, j'aimerais qu'on aborde une question un peu particulière, puisque quand on lit un roman, on est tout seul, on lit parfois à voix haute, et je crois que celui-ci appelle justement la lecture à voix haute, mais on est tout seul, on peut fermer le livre. Au théâtre, on voit des choses et vous montrez des choses. Est-ce que dans votre création, vous avez été aussi libre que vous vouliez l'être par rapport justement à ces sujets qui peuvent être mal perçus ou inquiétants pour certains ?
Pour moi, un texte, c'est comme une partition de musique. En fait, j'ai des mots et de ces mots, je vais les interpréter. Donc les mots restent les mêmes, seulement il y a un rythme dedans qui peut changer certaines sources d'interprétation. Donc forcément on est sur une interprétation du roman. Déjà Amélie Nothomb a interprété pour elle les questions qu'elle se posait. Maintenant moi, de ses réponses à elle, j'ai interprété quelque chose et Julien interprète aussi quelque chose. C'est l'addition de nos deux sensibilités.
Avec des limites ou pas? Est-ce que vous êtes senti enfermé dans des mots?
Alors pas du tout. Je trouve que non, c'est de jouer avec les mots de quelqu'un. Enfin, c'est la base, quoi. C'est la partition. C'est à tel moment on va accélérer, à tel moment on va aller plus lentement, à tel moment c'est un andante, d'autres fois c'est un scherzo.
Oui, mais là c'est pas. Silence. Oui, là il se trouve que c'est pas une romance et le personnage central c'est Jésus. Donc est-ce qu'on y va un peu sur comme sur des œufs, Julien Détraque?
Dans le texte, on a une expression qui revient assez souvent, qui est « en vérité, je vous le dis ». C'est finalement les seuls mots qu'on a voulu mettre en exergue, parce qu'il y a un humour derrière l'utilisation répétée de « en vérité », qui apparaît, je pense, dans notre adaptation peut-être à 5 ou 6 reprises. Donc ça, on y a pensé. Toi, Catherine, dès le départ, t'as voulu qu'on y fasse un sort, entre guillemets, c'est-à-dire que ces deux mots-là éclatent parmi la phrase dans laquelle à chaque fois on les entend. À part ça, on est sur un personnage. Amélie en parle de la même façon, c'est-à-dire que pour elle, c'était un rêve depuis toujours d'écrire sur Jésus, parce qu'elle trouve que c'est un personnage passionnant, épique, avec un destin incroyable. Et donc, on est avec un personnage qui pense à haute voix, et on essaie de comprendre ce qu'il a pu se dire ou ce qu'il a pu dire. Donc, on a une pensée et on a une parole qui... Notre job, quelque part, a été de la ressentir et de voir comment elle pouvait se dérouler. Donc, non,
mais vous pouviez aller peut-être plus loin, être plus provocateur, ou bien être en deçà et être juste. La partition, j'ai l'impression que vous avez été très exigeante, aussi bien Catherine que vous, Julien, sur... la justesse, hein, on parle de musique, hein, on parle de notes justes, hein, c'est bien ça?
D'ailleurs, en parlant de justesse et de notes, Michel Vinogradov, qui a fait la création sonore, lui nous a accompagnés sur un grand nombre de répétitions pour pouvoir créer un peu en même temps et avec nous cette partition-là. Et il m'a assez impressionné parce qu'il était, lui, il était au mot près. C'est-à-dire qu'il me reprenait sur le mot près.
Donc, le mot ou le son?
Plutôt le mot.
Le mot.
Ouais, le mot. Mais vous avez raison, c'est sur quelques endroits, comme on est sur une matière qui était écrite et qu'on a oralisée, sur quelques endroits, on s'est attaché à faire entendre les sons tels qu'ils doivent être pour pas qu'il y ait de double lecture.
On va parler un tout petit peu de la mise en scène, Catherine Datt. Il y a Julien qui joue Jésus, qui est seul en scène, mais il y a aussi dans le roman d'autres personnages. Mmh. Et il y a Judas, évidemment, qui est là. Il y a Madeleine, extraordinaire personnage d'une grande beauté et qui fait un peu le nœud dramatique de cette histoire. Il y a Marie, la maman, évidemment. Alors, je voulais vous demander comment vous faites intervenir ces personnages dans un seul en scène, Catherine Datt.
C'est la narration. En fait, c'est un homme, parce que c'est vrai qu'on ne s'est pas attaché à se dire c'est le Christ, c'est Jésus, c'est un homme. C'est un homme qui va raconter sa propre histoire, et dans son histoire, il fait intervenir des personnages. Et ces personnages sont donc interprétés par Julien. C'est la même chose. Nous sommes dans une même situation. Et donc, il suffit de très peu de choses pour que les gens comprennent qu'ils basculent d'un personnage à l'autre. Et ce ne sont pas des moments qui sont non plus très longs, ce ne sont pas des dialogues qui durent des pages et des pages. Donc moi, pour moi, il était très important que ce soit seul Julien qui le raconte, puisqu'on est dans la tête de ce garçon, on est dans la tête de cet homme, on n'est pas dans une représentation, on est dans sa tête, c'est-à-dire qu'il y a un déroulé de la pensée qui est parfois un peu surprenante, et des moments, des choses qu'il raconte, qu'il a vécues, d'autres que tout d'un coup il ressent, et d'autres qui sait depuis belle lurette. Donc, on est comme ça dans des mouvements internes, et les personnages en question dont il parle, auxquels il est extrêmement attaché, sont représentés plusieurs fois au fil de la pièce, et sont toujours dits par Julien. Ouais, j'y tenais beaucoup.
Très intéressant, hein, cette façon, pas facile, mais vous qui êtes habitué à faire du seul en scène, vous êtes habitué à jouer plusieurs personnages, le monde entier même passe de votre regard jusqu'au spectateur et de votre voix. Comment se passe la montée au Golgotha, qui est quand même un des moments, et la crucifixion également, comment se fait cette montée au Golgotha au théâtre, Julien?
En aller-retour. Je pense. On a essayé d'être sur une ligne de crête et de temps en temps d'être dans le dramatique de cet événement et de ce trajet et de ce chemin et l'ironie, l'humour et la distance que l'on peut prendre aujourd'hui 2000 ans plus tard. Donc on a essayé de faire un aller-retour dans cet endroit-là. Un moment, Catherine a eu l'idée, je pense assez rapidement, de faire sortir ce Jésus qu'on a sur scène, de le faire sortir de la scène. Il vient au milieu des spectateurs et lui-même assiste à sa propre montée du Golgotha et en parle. Et se parle, c'est-à-dire que il se voit, il se dit ne pas tomber, c'est interdit. En plus, si tu tombes, ce sera pire. Et là, il s'adresse au spectateur. Oui, il y a moyen que ce soit pire. Ne tombe pas, je t'en conjure. Et donc, on a oscillé entre deux états pour garder l'humour du texte et aussi respecter quelque part l'imagination et la liberté de chacun.
Voilà une création de mise en scène qui, je crois, marquera les spectateurs. Ce qui est très difficile au théâtre doit l'être un peu moins au cinéma, puisqu'on a l'image. Mais là, en un temps très très serré, vous allez réussir à créer cette inquiétude et cette solitude. Donc, à propos de solitude, on va écouter votre choix musical, Julien Blétrac. Il s'agit d'un morceau que Amélie Nothomb ne désavouerait peut-être pas. De quoi s'agit-il ?
Oui, parce que c'est un morceau d'un groupe qui s'appelle System of a Down et qui est donc un groupe considéré comme un groupe de métal. Et son morceau s'appelle Lonely Day.
Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day shouldn't exist. It's a day that I'll never miss. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. I wanna go with you. And if you die, I wanna die with you. Take your hand and walk away. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day, and it's mine. It's a day that I'm glad I survived.
Après après ce poignant jour de solitude, nous sommes toujours en compagnie de Julien Blétrac et de Catherine Datt qui présentent au Casino d'Anguin le 3 février, vendredi 3 février à 20h me semble-t-il, 20h30, ce spectacle Soif qui est une adaptation du roman d'Amélie Nothomb qui porte ce titre Soif. La dramaturgie du livre et du roman est assez simple mais puissante, très efficace à la manière d'Amélie Nothomb, et je voulais savoir comment vous, Catherine Datt, avez réussi à créer ces deux très forts moments, d'un côté le procès et de l'autre la crucifixion et la passion. Catherine Datt.
Alors, le roman démarre effectivement sur donc le procès, qui est assez court en fait, somme toute, puisque très vite Pilate va dire qu'il sera crucifié le lendemain, et donc à ce moment-là, il rentre dans sa cellule, il est projeté dans sa cellule, et là, donc, on va avoir un homme qui va se souvenir, en fait, se souvenir de moments importants pour lui. Il va y avoir effectivement Judas, il va y avoir la noce de Cana, son premier miracle, et il va y avoir
Madeleine.
Pardon.
Madeleine.
Oui, et sa rencontre avec Madeleine, tout à fait. Et ensuite, il va y avoir le moment où on vient le chercher, et à ce moment-là, il va y avoir cette montée au Golgotha. Dans la montée au Golgotha, il y a effectivement la souffrance qu'il va ressentir, mais à la fois aussi le commentaire qu'il en fait. C'est-à-dire qu'on oscille entre un homme qui se voit et un homme qui se vit. Donc, et c'est des choses qui nous arrivent dans la vie, de toute façon, d'à la fois de vivre un moment et en même temps de se voir vivre ce moment. Ben, c'est un peu, on l'a traité un peu de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il est en train de le vivre et donc on va le vivre avec lui, et d'autre part où il nous raconte comment il l'a vécu. Voilà.
J'aimerais poser la question justement à Julien de savoir comment, selon lui, qu'est-ce que Jésus ressent en voyant sa mère, en voyant Marie, en voyant le peuple devant lui, lui qui est seul sur la croix, et en voyant Madeleine. C'est un moment absolument poignant, non ? Et comment est-ce que vous arrivez à jouer ça ? Qu'est-ce que vous mettez dans votre tête et dans votre bouche pour qu'on ressente la puissance de vos propres sentiments de Jésus ?
Marie, Madeleine... les personnes qui entourent la croix, Jésus étant éprouvant de l'amour pour tout ce qui existe et tout ce qui l'entoure, sont des endroits sur lesquels, et sont des personnes et des êtres sur lesquels, enfin, qui lui font quelque chose. Il éprouve cette tendresse et cet amour pour tout ce qui l'entoure. Mais il leur inflige un spectacle qu'il a accepté, donc qui est un spectacle de douleur et de souffrance. Donc ce que je me dis et ce que je ressens à ces endroits-là, c'est quelque part une sorte de culpabilité. Est-ce que j'ai le droit de leur faire vivre ça ? Et c'est d'ailleurs toute la question centrale de la fin de notre pièce qui l'amène à une multitude de sentiments, dont celui de la colère et de l'incompréhension. Il y a eu un vice de forme dans tout ça. Donc il se demande pourquoi. Et puisque sa parole est « aime ton prochain comme toi-même » et que lui, il accepte une situation dans laquelle, ben, visiblement, il ne s'est pas forcément aimé pour pouvoir accepter d'être crucifié sur une croix, est-ce que ça ne remet pas en cause toute sa parole et et tout le message qu'il a porté ?
Mais justement, il est à la fois porteur de ce... cette sorte de malheur, en fait, qui lui tombe dessus, qui est d'aimer tout le monde, mais ça lui vient de son père. Son père, Dieu le Père, Catherine Datt et Julien Blétrac, il est un peu évanescent, mais avec une responsabilité très grande dans ce choix. De son propre fils pour, pour être le rédempteur général. Et j'aimerais que vous puissiez, Julien, nous dire un extrait de cette contradiction et de ce dialogue entre le Fils et le Père. Vous voulez bien ?
Oui. Mon père m'a choisi pour ce rôle, c'est une erreur, une monstruosité, mais cela demeurera l'une des histoires les plus bouleversantes de tous les temps. On l'appellera la Passion du Christ.
Voilà, et c'est extrêmement émouvant d'entendre ces quelques mots.
J'ajouterai, donc là on est plutôt sur la fin de notre pièce, mais au départ à un moment, non d'ailleurs c'est aussi, mais c'est un peu avant, c'est sous couleur de donner une leçon d'amour édifiante, donc là c'est Jésus qui parle à son père, tu mets en scène la punition la plus hideuse et la plus lourde de conséquences qui se puisse imaginer. Voilà, ces deux moments, et c'est pas les seuls, où on a cette théâtralité dans ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on parle de mise en scène, on parle de rôle, on parle de choses à incarner, et c'est là où finalement c'est tout notre plaisir de monter soif résonne encore plus.
Et oui, et on va encore s'interrompre quelques secondes pour écouter une musique qui va aller complètement dans le sens de ce que nous venons d'entendre, Catherine, hein, il s'agit de Pierre-Henri et d'un extrait de la messe pour le temps présent.
Oui, tout à fait. J'ai choisi cette musique que je trouve particulièrement adaptée au texte d'Amélie Nothomb. Au départ, je pensais mettre beaucoup plus de musique classique et en fait, je me suis rendu compte que j'allais contre et qu'en fait, il fallait des choses beaucoup plus modernes parce que son écriture est très moderne et qu'en même temps, les questionnements qu'elle a sont tout à fait les questionnements que n'importe quelle personne, être humain, peut avoir aujourd'hui.
Voilà, on écoute cet extrait de la messe pour le temps présent de Pierre-Henri. Nous quittons la musique contemporaine et nous revenons à nos années, à nos siècles précédents, à nos millénaires précédents. Et nous sommes toujours en compagnie de Jésus, Julien Blétrac, et de sa metteur en scène, Catherine Datte. Catherine Datte, vous mettez en scène Julien, mais votre activité ne s'arrête pas là. Vous avez plusieurs spectacles, certains en cours, non ?
Oui, tout à fait. Moi, je suis aussi, également la collaboratrice artistique d'André Dusselier, et en ce moment, nous sommes sur la dernière semaine de répétition avant le spectacle qui s'appellera « Sans dessus-dessous » au Bouffe Parisien, qui commence donc le 18 janvier avec André Dusselier, en seul en scène également.
Remarquable remarquable comédien, évidemment, on ne va pas rappeler sa carrière, mais là, dans les poèmes, il a un charme particulier.
Absolument. André a une capacité tout à fait personnelle de... Lorsqu'il dit un mot, il déclenche chez le spectateur une image. Et beaucoup de gens ont entendu le mot de Victor Hugo, et combien de fois j'ai entendu, mais on voit ce mot virevolter, traverser la scène, etc., arriver. Et c'est la force d'André, c'est de pouvoir dire, il a une façon de dire, une rythmique qui fait que les images apparaissent. Et il faut toujours en tenir compte, comme Alain René en avait tenu compte dans Mélo, où dans Mélo, on a un gros plan d'André qui dure 9 minutes et quelques, où il raconte quelque chose qui se passe dans un théâtre, et je vous jure que tous les gens ne voient pas un gros plan de 9 minutes, tout le monde voit ce qui se passe dans le théâtre qu'André nomme, mais qui n'est pas filmé.
Voilà, et le talent d'André Dusselier est multiplié par celui de Catherine Datte et celui de Victor Hugo, mais il n'est pas seul, Victor Hugo, il joue d'autres grands poètes.
Ah oui, tout à fait. On a différents. Donc, il y a effectivement Victor Hugo, il y a Guitry, il y a Raymond Devos, sans dessus dessous, et il y a. J'ai un trou, excusez-moi.
Non, mais c'est pas.
Roland du Billard, qui est aussi très présent, et je pense que André est un des acteurs français qui sait s'emparer de l'interprétation des textes du Billard d'une façon absolument remarquable. Il n'en fait jamais des êtres stupides ni demeurés. Il y a quelque chose qui part dans l'absurde avec une saveur et un plaisir qui est absolument hors du commun.
Voilà, un bon camarade de théâtre, comme on dit dans votre profession, Julien. Il se trouve que Amélie Nothomb, lorsqu'elle a publié Soif, elle a dit carrément, mais c'est le livre de ma vie. C'est quand même un petit peu excessif, non ? Catherine, vous pensez que non ?
Non, je pense que quand on entend les interviews d'Amélie Nothomb concernant l'écriture de Soif, on sent qu'effectivement c'est quelque chose qui a dû arriver à maturation pour elle pour pouvoir l'écrire. Et en fait, elle explique qu'elle entendait, elle avait un dialogue avec Jésus, elle disait-elle, qu'à l'adolescence, ça s'est un peu estompé, elle le cherchait. Et il y a le pèlerin, je crois, qui lui a demandé d'écrire un article sur la montée au Golgotha, en fait, les douze stations. Et à partir de là, c'est comme si ça a été le déclencheur pour elle de se lancer enfin dans l'écriture de ce livre qu'elle porte en elle depuis fort longtemps.
Alors, je me tournerai vers Julien Blétrac pour lui demander si il y a un rôle, le rôle de votre vie, lequel serait-il, Julien ? Quand on joue Jésus, est-ce qu'on peut aller plus haut, plus loin ?
Oui, toujours.
Le diable, peut-être.
Effectivement... Il y a certains rôles avec une noirceur et le fait de pouvoir faire parler son côté sombre qui sont passionnants et que j'aurais envie un jour de jouer. Il y a des rôles shakespeariens qui sont incroyables, donc qui pourraient s'apparenter un peu quelque part à ce qui anime le diable.
Alors, écoutez, on vous souhaite de jouer le diable et en quelque sorte le bon Dieu. Un très grand merci à vous, Julien Blétrac. Je rappelle que vous jouez Soif, d'après le roman d'Amélie Nothomb, dans quelques jours, le vendredi 3 février, au Théâtre du Casino d'Anguin. Et si vous voulez passer un bon moment, chères auditrices et auditeurs, un vrai moment de théâtre, profonds, drôles et intelligents. On vient de les entendre, le comédien et la metteur en scène. Courez vite réserver vos places. Ensuite, vous allez le jouer ailleurs. La production n'est pas finie à Anguin, hein, bien que ce soit un endroit très spécial.
Oui, très. Nous sommes très contents de venir à Anguin. Et nous jouons également à Deauville le 5 février. Puis après, on s'installe au Théâtre du Rond-Point pour le mois de mars. Et ensuite, on joue au Gresco à Saint-Mandé, c'est ça ?
Et en juillet, on ira présenter la pièce à Avignon au festival pendant tout le mois de juillet.
Formidable. Donc, un très grand merci Julien Blétrac, un très grand merci également à Catherine Datte. Je remercie Francky qui a réalisé cette émission. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h sur IDFM Radio pour une nouvelle émission Entre chiens et loups. Merci de votre fidélité et bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Et c'est tout de suite, Luz ao Mundo, pour l'émission de langue portugaise. Bonne soirée à tous. Thank you.